samedi, le jour où l'on décida de manger Vincent. Le lendemain matin, le soleil brillait à nouveau sur l'île aux moutons. Le vent, cependant, continuait à souffler fort et poussait les rares nuages qui traversaient le ciel comme des fusées. Il était presque 10 heures lorsque le ministre et son conseiller quittèrent l'école pour aller petit déjeuner au café du village. Il n'y avait pas classe le samedi. Le jardin de l'école était presque désert. Seul Vincent était là, qui prenait un bain de soleil, allongé sur le flanc. Le ministre l'aperçut, s'approcha et caressa le crâne de l'animal. « Alors, Pépère, bien dormi ?»« Tiens, vous aimez les bêtes maintenant ?» demanda le conseiller au ministre qui sursauta. « Non, répondit le ministre, évidemment non. » « Pourtant, vous venez de caresser ce mouton. »« Mais non. »« Mais si, je vous assure. D'ailleurs, vous avez raison. Il a une très jolie couleur. »« Ah, vous trouvez ?» dit le ministre. « C'est la couleur du pull que ces gens m'ont offert. » « Mais oui !» s'exclama le conseiller en pointant du doigt le pull avec lequel le ministre avait dormi et qu'il portait encore. « C'est exactement la même couleur. »« Maintenant que vous le dites, je n'avais pas remarqué. »« Évidemment, vous ne remarquez jamais rien. Maintenant, hâtez le pas, j'ai faim. »« Eh, monsieur et monsieur !» À peine les deux hommes avaient-ils repris leur chemin qu'ils entendirent une petite voix les appeler. Jeanne descendait l'échelle de la petite cabane perchée dans le pommier du jardin de l'école. « Allons bon !» souffla le ministre conseiller. « Il ne manquait plus qu'elle. » « Qu'est-ce qu'elle nous veut encore, cette petite folle ?»« Mon père vous fait dire que si vous voulez manger chez nous ce soir, vous pouvez. Il y aura du poulet. »« Très bien, » dit le ministre sur ce ton sec dont il avait le secret. « Nous serons chez toi à 19h30. Mais quand on est une petite fille bien élevée, on dit dîner, pas manger. »« Et l'école ?» demanda Jeanne au ministre. « Quoi, l'école ? Elle va continuer ?» Le ministre ne répondit rien. Il haussa seulement les épaules et se remit à marcher, suivi par son conseiller. On ne se méfie jamais assez des petites filles, surtout celles qui grimpent aux arbres. Du haut de son perchoir, Jeanne avait vu le ministre caresser la tête de Vincent, et même lui parler comme on parle à un ami. Cela lui donna l'idée d'une méchante blague. D'habitude, Jeanne n'aimait pas faire de la peine aux gens, mais le ministre, c'était différent. Ce soir, pensa-t-elle, on va bien rigoler. Puis, pour la forme, elle tira la langue au ministre, mais cette fois, il ne se retourna pas. Le soir, comme convenu, le ministre et le conseiller se rendirent chez Jeanne. Ils attaquaient le plat de résistance lorsque le téléphone sonna. « Je vous prie de m'excuser, c'est peut-être une urgence, » dit le vétérinaire en se levant. Le ministre, qui avait le nez plongé dans son assiette, ne fit pas le clin d'œil que fit le vétérinaire à sa fille, pas plus qu'il n'aperçut la réponse de Jeanne, qui leva discrètement le pouce. « Allô, vraiment ? C'est embêtant. Oui, bien sûr, non. La sécurité d'abord. Très bien, rappelons-nous demain. C'est cela, à demain. » Lorsqu'il raccrocha, le vétérinaire fit à ses invités un résumé de la situation. C'était le capitaine du ferryboat qui appelait depuis la terre ferme. Un bateau de pêche est décroché et le vent l'a poussé vers le ferryboat qui était amarré au quai. La coque a pris un méchant coup. Le ferry sera sorti de l'eau demain matin pour vérifier les dégâts. Dans le meilleur des cas, la prochaine traversée aura lieu lundi, si la météo le permet. Seulement lundi ? En quelque sorte, nous sommes prisonniers, dit le ministre. Rassurez-vous, dit le vétérinaire, nos prisonniers sont bien traités. Et puisque vous serez là dimanche, vous partagerez notre gigot. Si vous n'aimez pas le poisson, je suis sûre que vous appréciez la viande de mouton. Et personne ne prépare mieux le mouton que ma mère, la grand-mère de Jeanne. Nous acceptons avec plaisir, monsieur le maire, dit le conseiller à gourmandise. N'est-ce pas, monsieur le ministre ? Nous n'avons d'autre choix que d'accepter, répondit le ministre. Et pour répondre à votre question, oui, j'aime le gigot, à condition qu'il soit préparé sans ail. Je ne digère pas l'ail. « Non !» cria Jeanne, qui avait suivi la conversation. « Je ne veux pas qu'on mange Vincent. C'est mon mouton, mon copain. Il vous a rien fait et vous voulez le tuer pour le manger. Vous êtes tous méchants, méchants, méchants !» Brusquement, elle renversa sa chaise, quitta la table et d'un bond se jeta sur le canapé du salon. Elle enfouit sa tête dans un coussin qui étouffa ses sanglots. Le vétérinaire vint s'asseoir à côté de sa fille. À travers la baie vitrée, il aperçut Vincent, dont la silhouette se détachait dans la pénombre. Il soupira longuement et dit « C'est vrai, pourquoi te mentir ? Vincent est un vieux mouton, il est gras et plus personne ne veut de sa laine. » Puis se tournant vers le ministre, « Ce pull que nous vous avons offert, personne n'en voulait. Cette couleur est démodée. Peut-être que si Vincent avait été pris à l'école, on l'aurait encore tendu 2 ou 3 ans, tricoté quelques paires de moufles pour les enfants. Mais vous avez sans doute raison, cette idée d'inscrire un mouton à l'école était ridicule. Tout ça, c'est ma faute. Je vous demande pardon, monsieur le ministre. Je vous ai fait perdre votre temps. » Comme le ministre ne disait rien, le conseiller lui fit un signe pour l'inviter à répondre aux excuses du vétérinaire. « Allons, allons, monsieur le maire, » répondit le ministre en se forçant à sourire. « Ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous avez essayé de sauver votre école, c'est tout à votre honneur. Je dirais même que c'est républicain. Oui, républicain. Et cet animal dont je porte aujourd'hui les couleurs, poursuivit-il en passant sa main droite sur son ventre, ne mérite certainement pas d'être sacrifié.
Ce n'est pas un sacrifice, répondit le vétérinaire en se levant. Bien au contraire, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un mouton. Lorsque vous aurez goûté au gigot de ma mère, vous comprendrez, dit-il en ouvrant la baie vitrée qui donnait sur le jardin.
Jeanne leva la tête et vit son père s'éloigner vers le pommier en dessous duquel Vincent s'était installé. Le ministre et son conseiller restèrent sans voix, figés comme des statues au milieu du salon. En voyant leur tête, Jeanne avait envie de rire, mais elle replongea la tête dans son coussin et fit semblant de sangloter. Rompant le silence, le conseiller prit la parole. « La nuit va tomber, il est temps pour nous de prendre congé. Il ne pleut pas, nous allons en profiter pour rentrer à pied, par la côte. Mademoiselle, ce dîner était encore une fois exquis et je me réjouis de goûter au gigot de votre grand-mère. Bonne nuit à toutes les deux, remerciez monsieur le maire si nous ne le croisons pas. » Les deux hommes s'éloignèrent et regagnèrent l'appartement de l'école sans rencontrer personne. Dimanche, le jour où Vincent sauva l'école de Moutonville. Comme tous les dimanches matins, Jeanne s'était levée de bonne heure pour regarder Prout l'écureuil. Le week-end, son père faisait la grasse matinée, mais en l'attendant, elle avait le droit de regarder les émissions pour enfants. Alors que sur l'écran, Prout venait de découvrir une noisette géante, le téléphone du vétérinaire se mit à vibrer sur la table basse. « C'est sûrement pas important, se dit Jeanne, et si c'est important, ils laisseront un message. » Mais au moment où les publicités allaient commencer, quelqu'un frappa à la porte. D'abord doucement, puis très fort. Si fort que Jeanne se recroquevilla sur le canapé et plaqua ses mains sur ses oreilles. Elle entendit quand même qu'à l'étage, son père ouvrait une fenêtre. « Voilà, voilà, j'arrive, dit le vétérinaire. Que se passe-t-il »«
C'est le ministre, dit un homme. »«
C'est le bateau, dit un autre homme. »«
Comment ça? De quoi parlez-vous »«
Le bateau, monsieur le maire, il a disparu. »«
Quel bateau ?»«
Celui du boulanger, la barque rouge. » »«
Attendez-moi sur le port, je vous rejoins, dit le vétérinaire. »
Jeanne entendit son père courir vers la salle de bain, revenir dans la chambre puis dévaler les escaliers. Il traversa le salon à la vitesse d'une étoile filante, attrapa ses affaires au vol sans prêter attention à Jeanne et sortit. La porte claqua. Le moteur du pick-up hurla, ses roues patinèrent dans la boue et Jeanne entendit le véhicule s'éloigner. Finalement, elle enleva les mains de ses oreilles et le silence revint. La petite fille savait qu'elle n'avait pas le droit de s'éloigner de la maison sans autorisation. Pourtant, une petite voix lui disait que sa place était sur le port, avec son père. Alors elle bondit du canapé, enfila ses bottes et, toujours en pyjama, courut chercher son vélo. Le soleil qui était encore bas brillait sur la terre mouillée. Jeanne pédalait de toutes ses forces vers le village. Plusieurs fois, elle dut faire tinter sa sonnette pour éloigner les moutons qui traînaient sur le chemin. Ses pneus glissaient sur des plaques de boue, mais Jeanne ne tomba pas. Elle n'avait pas le temps de tomber. Lorsqu'elle arriva sur le port, les hommes de l'île étaient déjà tous rassemblés sur le quai. Elle s'approcha du groupe et reconnut la voix de son père. « Ce n'est pas parce que le bateau n'est plus là que le ministre est parti avec. Quelqu'un a très bien pu l'emprunter pour aller à la pêche, Maurice par exemple. »
Ben non, dit un autre homme.
Pourquoi pas?
Ben.
Ben, parce que je suis là. Et toi, Albert?
Aussi.
Jules,
présent.
Ah. Le vétérinaire scruta l'horizon. Aucun bateau n'était visible sur l'horizon.
Êtes-vous certain que le ministre et son conseiller ont quitté l'école?
Oui, dit l'un des hommes. J'ai frappé et comme personne ne répondait, je suis monté voir. La porte était ouverte et la chambre était vide. Quelqu'un alors proposa qu'on appelle le conseiller. Le vétérinaire qui avait son numéro sortit son téléphone. Après quelques tonalités, une voix se fit entendre. « Bonjour, vous avez appelé le cabinet du ministre de l'Éducation. Veuillez laisser votre message après le bip. »«
Messagerie, » dit le vétérinaire en glissant le mobile dans sa poche.
Tous, alors, se dirent qu'il n'y avait plus rien à faire et décidèrent de remonter vers le village. Une fine pluie commençait à tomber. Jeanne rejoignit son père. Il fut surpris de voir sa fille aussi loin de chez elle, mais il ne la gronda pas. Il la prit sur ses épaules et poussa son vélo. «
Papa, » demanda Jeanne, « tu crois qu'il va revenir, le ministre ?»«
Non, poupée, il ne reviendra pas. »«
Ça veut dire qu'on a perdu ?»«
Oui, poupée, on a perdu. » Comme Jeanne ne dit rien, son père poursuivit seul la conversation. « Mais ne t'inquiète pas, on va te trouver une bonne école. Elles sont encore mieux sur la terre ferme, bien plus grandes que sur l'île. Là-bas, les enfants font du foot, ils vont à la piscine. Tu habiteras chez ta tante avec tes cousins et tu reviendras sur l'île pour les vacances. » Jeanne se laissa glisser des épaules de son papa. « Ça m'est égal le foot et la piscine, dit-elle. Je ne veux pas partir. Jamais !» Elle sentait que des larmes allaient couler sur ses joues, mais elle ne voulait pas pleurer en public. Alors elle se mit à courir aussi vite que ses bottes lui permettaient. Elle passa devant Vincent qui broutait l'herbe de l'école. Dès qu'il vit la fillette, il vint à sa rencontre.
« Laisse-moi, dit-elle en repoussant l'animal. J'ai pas envie de jouer. »
Jeanne poussa la porte de l'école. C'était la première fois qu'elle se trouvait toute seule dans la classe. La pièce était vide. Elle aurait pu s'asseoir n'importe où, mais...
sans vraiment réfléchir, s'installa à sa place habituelle au deuxième rang. Elle décida qu'elle ne voulait voir personne et qu'elle ne quitterait plus jamais cette école. Même si les grandes personnes décidaient de la détruire, elle resterait là et ce serait tant pis pour eux. Pour s'occuper, elle gratta une tache de boue qui avait séché sur la manche de son pyjama. Vincent avait suivi Jeanne. Elle ne le voyait pas, mais entendait ses sabots claquer sur le sol, quelque part derrière le bureau de la maîtresse. Finalement, le bruit s'approcha et elle aperçut la laine brune du mouton qui se faufilait entre les chaises. L'animal s'approcha et fit glisser sa tête sur les genoux de Jeanne, qui lui caressa le haut du crâne. Généralement, une caresse suffisait au bonheur de Vincent, mais ce jour-là, il semblait très agité. Il donna à l'enfant plusieurs coups de museau. Ses mais se mirent à ressembler au grognement d'un chien. « Je sais, » dit Jeanne, « moi aussi je suis triste, on est tous tristes. » Mais Vincent ne l'écoutait pas. Il mordit un bout de pyjama et se mit à tirer dessus, comme s'il voulait en arracher l'étoffe. Il tirait si fort que Jeanne tomba de sa chaise. Jamais Vincent ne lui avait fait peur. Jamais il ne lui avait fait le moindre mal. Pourtant, il tirait et grognait toujours plus fort pour l'obliger à le suivre. À reculons, l'animal tira Jeanne jusqu'au tableau. Quand enfin il lâcha prise, il se dressa sur ses pattes arrière et se mit à faire de drôles de petits sauts. Là, devant son museau, une flèche avait été dessinée à la craie. Elle pointait vers une feuille pliée en deux qui tenait sur le tableau à l'aide d'un aimant. Jeanne la prit entre ses mains et déplia la feuille. C'était du très beau papier avec un petit drapeau bleu-blanc-rouge imprimé dans un coin. Ayant personnellement constaté que 30 élèves étaient inscrits, j'autorise l'école de Moutonville à poursuivre son enseignement, à la condition expresse que tous les élèves présents sur la liste ci-dessous suivent tous les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle lut ce qui était écrit. La signature était illisible, mais Jeanne comprit que la lettre avait été écrite par le ministre. Et si elle ne connaissait pas tous les mots, elle en connaissait assez pour comprendre que l'école était sauvée. Elle prit Vincent dans ses bras et sortit en courant. Le mouton pesait très lourd, mais elle avait si hâte de partager la bonne nouvelle qu'elle lui semblait léger comme une plume. Sur le chemin qui menait à Moutonville, elle trébucha plusieurs fois, glissa sur plusieurs flaques de boue. Quand enfin elle arriva devant le café où tout le village était réuni, elle prit son élan et ouvrit la porte d'un grand coup de botte. Toutes les têtes se tournèrent vers la petite fille en pyjama qui tenait dans ses bras une lettre et un mouton. Le vétérinaire prit la lettre des mains de sa fille et la lut à haute voix. Les habitants applaudirent. Quelqu'un sortit de sa poche une sorte de petite flûte et tous se mirent à chanter. Ils avaient l'air heureux et ils l'étaient. Vincent lui dit juste « Mais… » Épilogue, que sont-ils devenus ? Les habitants de l'île ont repris leur vie d'avant. Le vétérinaire continue à soigner les animaux et passe deux après-midi par semaine à la mairie. La maîtresse s'occupe des enfants et partage ses week-ends entre son jardin et la terre ferme. Certains disent qu'elle a un amoureux, mais personne ne l'a jamais vu. Jeanne a pris 2 cm. Elle aime toujours les plats surgelés et va toute seule à l'école au guidon de son vélo. Elle a écrit une carte postale au ministre pour le remercier. Parce que bon, quand même. Le ministre est toujours ministre, mais il a quitté son poste à l'éducation nationale pour prendre la tête du ministère de l'Agriculture. Sur le mur de son bureau, il a punaisé la carte postale que lui a envoyée Jeanne. Il a toujours froid et continue à se gratter, mais beaucoup moins. Vincent n'a pas raté un seul jour d'école. C'est un élève modèle, sage et toujours à l'heure. En ce moment, il répète le spectacle de fin d'année. On lui a donné le rôle principal dans La Chèvre de M. Seguin. Mais c'est une autre histoire.